Cette émission est financée par ses auditeurs et non pas par de la publicité ou des sociétés externes. Aujourd'hui, nous remercions les formidables Yann, Thomas Fauré, Marc Verdier, Nicolas Lejuez, Lionel Penaud, Olivier Bromberg et Guillaume, écrit dans un lead speak incroyable. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Vous le savez, le Rendez-vous Tech, c'est une émission où on vous résume toute l'actu importante, intéressante de l'internet, des gadgets, de la technologie, et de manière à ce que vous n'ayez pas besoin d'aller écumer tous les blogs de la Terre chaque jour, plusieurs fois par jour pour savoir ce qui se passe. Non, vous écoutez le Rendez-vous Tech une fois toutes les deux semaines et vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin, y compris un animateur qui ne sait pas bien parler français. Je m'appelle Patrick Béja et je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cet épisode avec, qui ricane un tout petit peu dans le fond, Jérôme Caliborg qui se joint à moi.
Oui, je ricane parce qu'entre un qui ne sait pas parler français et un qui est dyslexique, ils sont contents les gens en fait d'écouter le Rendez-vous Tech.
Écoute, espérons que nous allons raconter une histoire de surpassement de soi et des handicaps qui nous ont été imposés dans la vie, comme par exemple le fait de ne pas bien parler français pour faire un podcast audio et d'être dyslexique. Voilà, donc tu vas pouvoir mettre les mots dans le bon ordre quand tu vas parler.
Et puis ça pourrait être pire, hein. On pourrait avoir des voix de cons aussi, et ça passerait pas très bien en podcast audio.
Tu regardes trop YouTube, Jérôme. C'est une déformation professionnelle. Mais non, on aime bien les YouTubers. Moi, je suis tout le temps sur YouTube. J'adore.
Ah bah, j'espère bien que t'aimes bien les YouTubers. Sinon, tu n'aimes pas. Hein.
Non, mais toi, tu es un YouTuber tellement particulier, tellement spécial que tu es presque hors catégorie. C'est ça. Bon, bah écoutez, on va vous parler de plusieurs choses aujourd'hui, de pas mal de choses. Il y a plein de petites news intéressantes, mais aussi, et c'est pas pour dire que c'est pas intéressant, il y a eu une série d'informations et de questions qui ont été posées sur la modération sur les réseaux sociaux avec une histoire de la BBC qui a fait pas mal de bruit et une suite avec les membres du Parlement anglais qui ont passé à la casserole, non pas à la casserole, qui ont passé au grill des gens de chez Google, Facebook et Twitter à propos du contenu controversé qu'il peut y avoir sur ces plateformes. Et du coup, ça a amené beaucoup de questions, beaucoup de réactions qu'on a vues dans les médias généralistes. Et je pense qu'il était intéressant de revenir là-dessus, d'une part pour expliquer ce qui s'était passé exactement et peut-être pour vous montrer à quel point les choses peuvent être expliquées de manière différente. Et ça, c'est le cas pour toutes les informations du monde, mais là c'est particulièrement intéressant pour nous puisqu'il s'agit de tech et de sujets peut-être un petit peu sensibles, voire même faciles à tourner d'une manière spécifique. Et puis d'autre part, parce que ça nous permettra de faire un petit peu le point sur cette question de la modération et sur les problèmes que pose la modération sur les plateformes qui ont du contenu généré par leurs utilisateurs. Quand on parle de contenu généré par les utilisateurs, on parle pas seulement de vidéos ou de photos, mais également de choses comme les commentaires, etc., etc. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant et sont au fait de ces problèmes parce que vous naviguez dans des univers tech et que ce sont des sujets récurrents. Je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui sont au courant, on va dire, de loin, plus ou moins, et qui auront je pense qu'ils seront intéressés spécifiquement par une mise à plat des questions que pose tout ça.
Je rajoute juste une chose à ton introduction, parce que je trouve que c'est très intéressant un truc que tu as dit qui mettra peut-être en perspective les sujets. Tu as parlé, on produit du contenu, et je pense que c'est là où il y a un point important. tous, à partir du moment où vous écrivez dans un réseau social, vous êtes producteur de contenu. Et est-ce que ça donne des responsabilités ou pas, et quelles sont, enfin, tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où on est tous en train de produire du contenu pour des plateformes, des questions de modération, de censure, de liberté d'expression, en fait, nous touchent tous, quoi.
Ouais, tout à fait. Et je pense qu'il est, on voit souvent la chose d'une manière directionnelle, je dirais. C'est-à-dire que nous, on est les consommateurs du contenu et les médias. On pense souvent aux médias traditionnels comme la télé ou la presse ou la radio. Et on voit les choses avec la direction de les médias vont nous envoyer du contenu et donc nous, on va juger ou réagir à ce contenu. Mais t'as raison de le signaler sur les réseaux sociaux et sur le net.
C'est fini.
C'est ça, c'est que tout le monde participe à la conversation et du coup, avec ne serait-ce que les commentaires sur les articles, mais aussi les commentaires sur Facebook et ou sur Twitter ou partout ou sur dans les commentaires YouTube que tu connais bien toi. Et ben effectivement, on devient nous-mêmes créateurs de contenu. Alors avec une proportion moindre et une importance moindre bien sûr quand on réagit à un contenu produit en produisant donc nous-mêmes cette réaction. Donc l'importance est moindre pour la réaction, mais il n'empêche c'est quand même une réaction.
Oui,
et je pense
que
juste pour finir, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les critiques qu'on va pouvoir faire des médias traditionnels dont on pense qu'ils nous envoient du contenu généralement, je pense qu'il faut garder à l'esprit effectivement qu'il faudrait aussi se les appliquer, non pas aux autres qui sont en train de commenter, mais à nous-mêmes aussi qui sommes en train de commenter, puisque comme tu le dis très bien, on devient nous aussi créateurs de contenu.
Modéré, oui, parce que souvent on se dit j'ai 3 followers sur Twitter, personne me suit, je suis pas un influent, je suis pas un créateur. Mais imaginez, vous faites une image ou une phrase un peu drôle sur un homme politique, votre copain le retweet, ça tombe et tout d'un coup vous allez être projeté comme gros producteur de contenu, en tout cas d'influence, par rapport à une photo que vous aurez faite ou un truc. Donc, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, de devenir un gros producteur de contenu à un moment T. C'est pas parce que vous avez 3 followers qu'un jour, vous allez pas... votre tweet va être retweeté énormément, quoi. Donc, on peut plus parler d'un petit producteur de contenu qui sera jamais visible, quoi.
Moi, je crois que oui, t'as raison. Tu parles d'un cas très, très particulier, très spécifique, et je pense que t'as raison de le présenter comme ça parce que ça peut arriver. Moi, j'aurais tendance à dire que, au-delà de ça, il y a même une question de, vous savez, on dit en anglais, be the change you want to see into the world. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et ce que je dirais, je le détourne un tout petit peu pour dire qu'on a les médias, les politiques, les communautés, qu'on mérite. Et ce que j'entends par là, c'est que je prends souvent cet exemple qui parle de politique, mais qui est applicable à tout et en l'occurrence aux médias. On reproche souvent aux hommes politiques, avec entière raison, d'être corrompus quand ils le sont. Et moi, l'exemple que j'ai en Scandinavie, c'est que, et dans les pays nordiques, c'est que on n'accepte aucune corruption. Je donne souvent cet exemple qui est une ministre, je crois, ou une parlementaire qui avait acheté des genre un Mars ou un Twix avec l'argent du contribuable, alors que c'était pas dans le bon contexte, et ben elle a dû démissionner. Et ce genre de choses, vous voyez, on a toujours, et c'est possible à mon sens. Mais quand on l'applique à nos quotidiens ici en France, on a tendance à se dire ces histoires de corruption ou ces histoires de d'inadéquation dans les commentaires ou tout ça, c'est l'affaire des autres. Et si on a de la corruption dans le monde politique ou autre, on est prompt à pointer du doigt. Et ensuite, quand je demande aux gens... Oui, mais alors, vous, à votre niveau, est-ce que vous avez déjà fait sauter une contravention? Est-ce que vous avez déjà un tout petit peu triché avec les impôts pour éviter d'en payer trop? Est-ce que vous avez déjà, tu vois? Et là, la réaction des gens va être, ah ouais, non, mais attends, c'est pas la même chose. Là, on parle de 100, 150 euros. Voilà, et tout le monde le fait. Mais eux, c'est 10 000, 20 000, 100 000 euros. Et je crois qu'il y a un petit peu aussi dans le contenu, dans cette histoire. Alors, c'est un petit peu capillotracté, mais je pense qu'il y a quand même un petit peu de ça. C'est pas, c'était vraiment un commentaire sur ce que tu disais, donc j'y reviens. pour moi, c'est pas tant pour le cas où on va mettre être mis sur le devant de la scène qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, c'est plus pour que le ça va paraître ridicule, mais c'est plus pour que, entre guillemets, le monde soit meilleur, c'est-à-dire pour que on construise un environnement qui corresponde à ce qu'on voudrait. C'est un petit peu traite les gens comme tu voudrais être traité, quoi.
Ben, pour résumer ta comparaison pays scandinave et pays français, on peut dire que dans les pays scandinaves, on est sur le dicton qui vole un œuf, vole un bœuf, alors qu'en France, on va te dire, on fait pas d'omelette sans casser des œufs.
C'est un petit peu ça. C'est une belle analogie, effectivement. mais alors, bon, on est parti dans des grandes considérations générales, mais revenons à cette question qui nous occupe spécifiquement avec cette histoire de la BBC, et vous allez voir que, dans une certaine mesure, ça peut s'y appliquer, et puis il y a d'autres conclusions qu'on va en tirer. Alors, toute l'histoire part d'une enquête qu'a fait la BBC à propos de contenus pédopornographiques qui étaient disponibles sur Facebook. Et alors oui, effectivement, on s'éloigne, j'espère en tout cas, de ce dont on peut être responsable nous-mêmes en commentaire sur Facebook ou sur YouTube, mais vous allez voir qu'au final, c'est un petit peu lié. Donc, ils ont fait une enquête sur ce contenu pédopornographique et j'insiste sur le mot « contenu pédopornographique » qui peut, comme vous allez le voir, rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure. Et vous allez voir, je vais y revenir. Mais donc, ils avaient signalé une centaine d'articles qui incluaient, ou d'éléments qui incluaient du contenu pédopornographique, et ils ont constaté, après les avoir signalés, alors je sais pas combien de temps exactement, quelques jours, quelques semaines, mais un temps dans lequel ils auraient dû être traités, que seuls 82 d'entre eux n'avaient pas été supprimés. Ces contenus n'avaient pas été supprimés. Et ils l'ont tourné de cette manière, d'une manière à ce que on soit effectivement, on se rende compte que Facebook ne faisait pas son travail de modération. Et je pense que la manière dont c'était tourné est assez claire et il me paraît difficile en lisant l'article de ne pas considérer que Facebook n'a pas fait son travail. C'est-à-dire que on se dit contenu pédopornographique, a priori on imagine que ce sont donc des photos, voire même des vidéos, soit limite, soit clairement pédopornographiques. Ouais, mais... Il est évident que, je vais juste finir, il est évident que c'est pas compliqué. Il le signale, Facebook le voit, il devrait le supprimer. Sauf que on se rend compte ensuite, quand on lit d'autres articles que celui de la BBC, que la nature des éléments qu'ils avaient signalés était, par exemple, des photos effectivement d'enfants à la piscine ou d'enfants très jeunes peut-être qui étaient torse nu ou ce genre de choses, et que les éléments qui auraient dû être supprimés étaient des commentaires sur ces photos. Et Facebook donc avait demandé d'envoyer des liens, donc spécifiquement des URL vers les contenus en question, et la BBC avait envoyé à Facebook des photos, enfin des screenshots de ces contenus en leur disant voilà. Et donc Facebook a admis un petit peu après coup, mais a dit, alors oui, c'est vrai, on n'a pas été voir dans les commentaires et on aurait dû, mais c'est pas comme s'ils avaient envoyé 100 photos d'actes pédopornographiques clairs et que Facebook ne les avait pas supprimées après quelques temps. Il y a aussi donc cette audition de Google, Facebook, Twitter par des parlementaires anglais, qui à propos donc de l'incitation à la haine raciale et de la manière dont le gèrent ces plateformes, avec des il y avait spécifiquement une vidéo antisémite où la personne dans la vidéo parlait clairement de sujets antisémites. Je me demande si c'était pas Derek Duke d'ailleurs qui est le le chef du Ku Klux Klan. Donc oui, il y a très peu de doutes sur le fait que c'est un antisémite et même plus. Et donc Google expliquait que cette vidéo tombait plus dans le domaine de la liberté de parole, qui est très cher aux Américains et même aux Anglais, peut-être un petit peu moins depuis quelques années, mais il n'empêche. Il faut se souvenir que il y a encore même pas une vingtaine d'années, il y avait des gens qui prêchaient des guerres religieuses dans les parcs de Londres, et que ça, c'était considéré, bien sûr, comme pas vraiment acceptable, mais enfin protégé par la liberté d'expression. Et donc voilà. Et donc là, ils ont eu tout ce débat, et je vais ensuite parler des réactions qu'on a et des vrais problèmes, des deux problèmes qui se posent là-dedans, mais je t'ai empêché de m'interrompre, donc maintenant, vas-y, donne temps à cœur joie.
Il faut que je remonte en arrière. Pour séparer les choses, même si tout ça est un problème global, pour parler des problèmes des photos d'enfants pédopornographiques, tu vois, c'était intéressant de t'écouter parce que bien sûr, dès que tu prononces le mot pédopornographique ou pédophilie, tout de suite on a une réaction viscérale.
Bien sûr.
Oh putain, salaud, Facebook, vous laissez passer des trucs comme ça. Ok, si t'avais, et c'est pour ça que je voulais intervenir pendant que tu parlais, regardez dans les profils de vos amis cet été. Vous allez voir le nombre de photos d'enfants nus, leurs enfants, que vous allez voir dans votre timeline. Et tant que je vous dis pas c'est un contenu pédopornographique, vous dites c'est juste des photos d'enfants, enfin... La frontière est extrêmement mince. Un enfant nu, c'est un enfant nu. Et si c'est, enfin voilà, des photos d'enfants dans leur bain, c'est la traditionnelle photo de,
bien sûr,
de oui, avec ses cousins dans le bain, etc. Mais pour un esprit pervers, ça va être une photo pédopornographique, et pour la famille, ça va être une photo charmante.
Et effectivement, ce qu'il mentionnait là, c'était les commentaires qui était
oui, voilà,
inacceptable, et on mais, peut effectivement...
Et on remonte mais... à ce qu'on a dit, et je pense que notre introduction était très importante, et c'est là où c'est de notre responsabilité, on est tous des producteurs de contenu. C'est justement, tu postes une photo de tes enfants à poil à la plage en train de jouer, c'est pour ton entourage, c'est sympa, c'est rigolo, mais... D'autres s'en accaparent, si tu la mets pas en privé ou ce genre de choses, d'autres s'en accaparent et ils projettent d'autres choses dessus. C'est pareil avec un commentaire Twitter, c'est pareil avec tout ce que tu vas dire en fait sur Internet. D'autres peuvent se l'approprier et lui donner un sens qui n'est pas du tout le sens initial.
Mais alors, est-ce que ce que tu es en train de dire, et on va avancer sur les commentaires et les critiques et la manière de résoudre les problèmes, mais ce que tu es en train de dire, c'est attention, il faut s'auto-censurer, et du coup, si je pousse un peu à l'extrême, faut plus poster des photos de ses enfants, c'est ça que tu es en train de dire.
Des photos de ses enfants nus, et moi je le dis à tous mes amis qui sont en poste, alors là je leur envoie même.
Ah, t'es petite.
T'es sur Internet.
Pardon, tu as tous tes amis qui en postent, quoi?
À tous mes amis qui postent ce type de photos de leur enfant à la plage à poil, je leur envoie, moi, un petit mail en leur disant « tu ferais mieux de retirer cette photo ». Et ils réalisent. Ils ne réalisaient pas, tu vois. Et ils réalisent. Je leur dis « mais tu sais ce qui traîne quand même sur Facebook ?» Et là, tu l'as mis en public, en plus, ta photo, quoi.
Ouais, ouais.
Alors, l'entourage proche dit « ah, oh, c'est super mignon, gazouillis, machin », mais 3 jours après, tu vas te retrouver avec un commentaire super zarbi sous la photo de ton enfant, quoi. C'est là où il faut une prise de conscience de l'ensemble des personnes. On est là à vous bassiner avec des histoires de vie privée, de sécurité. C'est pour tout le monde, quoi. Tout le monde peut avoir un contenu qui est détourné. Tu balances une blague que t'estimes pas raciste. On va partir après sur l'humour, c'est quoi? Est-ce qu'on peut rire de tout avec tout le monde? Bon, on va pas partir là-dedans, mais tu balances une blague que tu juges un peu innocente. D'autres vont peut-être la considérer raciste ou la reprendre à leur compte en disant t'as vu un tel les blagues racistes sur Twitter, ça y va. Hein. Et boum. Tu vas te prendre une étiquette raciste dans la gueule et tu pourras pas t'en défaire.
Ouais.
Donc, bon, je dis pas qu'il faut s'auto-censurer, mais...
Bah, si, un petit peu, quoi.
Bah, il faut réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Moi, je dis souvent, tourne ta langue 7 fois sur le clavier avant de poster. Non, mais c'est vrai. Et souvent, le truc à éviter, c'est de répondre au tac au tac avec quelqu'un qui t'énerve ou ce genre de truc, parce que c'est généralement là où on écrit des grosses bourdes qui sont ineffaçables après.
Non, t'as tout à fait raison, et je crois que là c'est un petit peu t'es en train de donner d'excellents conseils de bonnes pratiques pour nous tous en tant que créateurs de contenu, en tant que fournisseurs de contenu pour ces réseaux sociaux. Et je crois qu'il y a un autre élément qui est le rôle de ces réseaux sociaux, et c'est peut-être qu'on pourrait leur jeter la pierre, mais ce à quoi s'intéressent les médias et les autorités, c'est beaucoup plus le rôle de ces réseaux sociaux et de ces sociétés dans la gestion de tout ce contenu. Je crois que les deux sont importants. Tu fais très bien de signaler le côté « nous » de cette équation, et il faut également parler du côté « eux ». Donc, oui. Et la réaction, alors j'ai deux petites explications. D'une part, les réactions classiques qu'on entend de la part des critiques, et d'autre part, à mon sens, ce que sont, une fois distillés, les deux problèmes essentiels qui se posent quand on essaye de faire de la modération. Alors, les réactions classiques, je crois, quand on voit des gens qui se rendent compte de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et on a lu ces réactions chez les journalistes et chez les parlementaires, hein, qui ont donné lieu à cette histoire. Donc, d'une part, je l'ai signalé il y a 24 heures, ou il y a 2 jours, ou il y a 1 semaine, et c'est encore en ligne. Et tu sais, il y a une vraie indignation du fait que, parce que quelqu'un l'a signalé, c'est encore en ligne, c'est pour eux assez inacceptable. Et ça mène à des réactions du type, je me souviens plus de son nom, je vais peut-être le retrouver, mais un des parlementaires anglais, un vieux monsieur très digne, qui disait qu'il est pointé du doigt les représentants de ces organisations en disant: mais est-ce que vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Répondez-moi. Vous ne ressentez aucune honte? Et tu vois, c'était un petit peu, je sais pas comment dire, mais t'avais vraiment l'impression que c'était Peter Barron, qui est le vice-président des communications et des affaires publiques. Excusez-moi. Lui, c'est la personne de Google. Bon. C'est David Winnick qui a demandé s'il ne ressentait aucune honte. Et ça, c'est, je pense, pas la bonne méthode, parce que ça passionne le débat et ça permet pas forcément d'avoir une discussion rationnelle. Mais bon, c'est un des
sentiments
quand
Surtout quand tu t'appelles Winnick, quoi, il faut faire attention. Désolé.
Non, mais tu pouvais pas ne pas la faire, effectivement. Non. Mais donc, c'est le genre de réaction qu'on ressent, et je pense que c'est une réaction naturelle quand on découvre ce contexte et qu'on ne le comprend encore pas bien. Je suis sûr que nous tous, on a eu à un moment ce genre de réaction, et peut-être qu'en comprenant, on s'est rendu compte que les choses étaient peut-être un petit peu plus compliquées. L'autre réaction qu'on a souvent des critiques, c'est vous gagnez énormément d'argent et vous ne dépensez pas assez de cet argent pour modérer vos plateformes. Et là, si je peux me permettre un petit jugement, je me dis qu'il y a peut-être plus à creuser, effectivement. Ouais. On peut au moins se poser la question de savoir, est-ce que mettre plus d'argent, des milliards et des dizaines et des centaines de milliards que gagnent toutes ces sociétés dans la modération, est-ce que ça pourrait aider ? Je suis pas convaincu que ça aiderait. Ils ont déjà des équipes de milliers de personnes qui font de la modération, mais peut-être oui, et il faut se poser la question.
Ouais, là on peut. Je suis d'accord avec toi sur la première réaction. Ça vient souvent de générations entre guillemets qui ont été habituées à l'ORTF ou la BBC ou la télé d'État où tu disais retirez-moi ça de l'antenne et les journalistes le faisaient en faisant des petites courbettes. Enfin, cette illusion que De croire, par exemple, que Facebook contrôle complètement son contenu et c'est tout ce qui se passe, il suffit d'appuyer sur un bouton pour couper un bad buzz ou ce genre de truc, on le rencontre dans une certaine génération, quoi. Moi, l'histoire que je raconte toujours, c'est un patron de McDo très vieux, et il y avait eu un bad buzz sur une histoire chez McDo, et en réunion, il avait dit, non, mais coupez-moi ça, coupez-moi cet internet. C'était il y a longtemps, hein, mais c'était un peu ça, quoi, tu vois, c'est... Et sur l'autre truc, sur les dépenses, là, comme je suis d'accord avec toi, il y a peut-être un peu plus à creuser parce que la grande tendance chez les grands des réseaux sociaux, c'est quand même de moins en moins de modération et d'agrégation humaine et de plus en plus d'algorithmes pour qu'en fait, ça coûte moins cher.
Alors, oui, oui et non. Disons qu'il y a beaucoup d'interventions de machine learning qui améliorent l'assistance aux modérateurs et Facebook en particulier, parce que ne soyons pas dupes, c'est beaucoup de Facebook qu'on parle, même si Twitter a énormément de problèmes dans ce domaine également. Facebook en particulier a choisi une approche un petit peu mixte où il y a de plus en plus de machine learning et également des modérateurs à côté de ça. Moi, je pense que on sera tous d'accord, à moins d'être vraiment complotiste, sur l'idée que ces plateformes, quelles qu'elles soient, ne veulent pas ni de contenu, disons, on va dire les deux trucs, terroristes et pédophiles, sur leur plateforme. Ne serait-ce que parce que c'est pas bien pour leur business, tu vois. Si on retire même l'idée qu'ils soient des gens, entre guillemets, bien, et bon, ça, on peut en débattre, mais au-delà de ça, bah c'est pas bien pour leur business qu'il y ait ce genre de truc. Donc, je pense qu'ils ont un intérêt même financier à supprimer ce type de contenu. Et bon, ensuite, effectivement, je sais pas combien ils dépensent dans la modération et je sais pas combien ils pourraient plus dépenser. Mais la question, je pense là, contrairement à je l'ai signalé, c'est pas encore en ligne et vous n'avez pas honte, je crois que là, la question peut être légitime et on peut explorer la chose. Mais ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est à mon sens qu'il y a deux problèmes essentiels et c'est peut-être c'est peut-être par ça qu'on aurait dû commencer potentiellement. Deux problèmes essentiels qui rendent cette modération extrêmement difficile. On va dire peut-être trois. Mais le premier pourrait être résolu par l'ajout de modérateurs. Le premier, c'est, on va dire, il y a énormément de contenu. Quand chaque commentaire peut être potentiellement un truc à regarder, à évaluer et à éventuellement supprimer... Vous doutez bien qu'avec 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook et même 300 millions sur Twitter, bah, ça en fait des trucs à regarder avec des perdus chaque jour.
Ça fait des millions d'émetteurs, quoi. C'est pas comme les médias d'autrefois où tu avais une salle de rédaction et un émetteur, quoi.
C'est ça. Donc, ça, c'est le premier problème qui pourrait peut-être être réglé avec des questions d'argent. OK. Mettons ça de côté maintenant. Il y a ensuite, les deux gros problèmes qui sont, d'une part, l'abus de signal comme inapproprié, et d'autre part, les différences de culture. Et je pense que ces deux sont importants à saisir. L'abus de signal inapproprié, c'est que si vous mettez en place un signal, un système qui va facilement faire en sorte que un contenu, qu'il soit un commentaire ou une image ou quoi que ce soit, peut être supprimé de du site s'il a assez de signaux inappropriés. Bah, a priori, ça peut être une idée qui peut fonctionner. On va se dire, bon, bah voilà, si 10 ou 100 ou 1000 personnes signalent qu'un truc est inapproprié, bah on va le supprimer automatiquement. Sauf que ce genre de système connaît des abus immédiats et très nombreux de personnes qui vont signaler des trucs comme inappropriés pour harceler ou pour gêner ou pour causer des problèmes à des personnes qui n'ont rien demandé à personne.
Et trouver 1000 ou 10 000 complices sur Internet pour certains, c'est pas compliqué de mobiliser des gens sur une opération, comme tu dis, on va le faire ban ou on va lui virer ses images pour le faire chier, c'est assez facile à faire en fait.
C'est ça. Et du coup, alors oui, on pourrait se dire, alors à chaque fois qu'il y a un truc qui est signalé comme inapproprié, on va regarder, on va mettre quelqu'un de d'humain devant le contenu, et puis on va le regarder, on va décider si oui ou non c'est inapproprié. On revient à la question de la dépense d'argent, et puis ensuite, ces gens, il faut les former, il faut qu'ils sachent comment gérer ces trucs. Et on arrive à la deuxième question hyper importante de cette question de modération, c'est les différences de culture, et même au-delà des différences de culture, les questions de savoir qu'est-ce qui est limite et qu'est-ce qui est clairement à supprimer. Je pense que qu'est-ce qui est limite et qu'est-ce qui est clairement à supprimer, vous pourrez tous penser à des exemples où vous dites « Ouais, là, je suis pas sûr, est-ce que c'est de l'humour, est-ce que c'est pas de l'humour ?» Est-ce que... C'est-à-dire qu'il est facile de parler en grande déclamation, mais quand on arrive à des cas spécifiques, il y en a une bonne partie où c'est une décision personnelle que va faire l'un des dizaines de milliers de modérateurs qui va parler au nom de Facebook. Donc c'est compliqué parce que c'est une décision difficile personnelle où vous allez avoir, je sais pas moi, 60% des gens qui vont être d'accord, 40% des gens qui vont dire « Mon Dieu, censure !» qui vont se lever et qui vont protester. Et au-delà de ces moments où il y a des sujets limites, et j'ajoute à ce point que les sujets dont on entend parler, c'est tous les sujets limites. Bien sûr, ceux où il y a clairement, je sais pas moi, une vidéo inappropriée d'appel à la haine raciale qui est supprimée, bah oui, bah voilà, celle-là, c'est terminé. Elle est supprimée, plus personne n'en parle. Ce dont on parle, c'est quand c'est limite. Donc c'est de ça qu'on se préoccupe, en fait. Et donc, vient s'ajouter à ça les différences de culture. Et on en a deux exemples absolument parfaits qui sont faciles à mentionner. Justement, d'une part, l'incitation à la haine raciale, qui, dans les pays anglophones, traditionnellement, a une importance démesurée, enfin démesurée, il y a une grande importance pour eux, c'est-à-dire que souvent, ils vont autoriser n'importe quel discours à partir du moment où il n'est pas un appel aux actes spécifiques. Genre, si quelqu'un dit « Vous, derrière votre écran, levez-vous et allez poignarder les Noirs et les Arabes que vous voyez dans la rue », ça, bien sûr, ça serait interdit. Mais s'il dit simplement « Ah, vous savez, moi, je pense que quand même... bah les gens de couleur ils sont quand même un petit peu plus paresseux quoi. Bah il y aurait encore une fois plein de choses à affiner, à déterminer, à préciser là-dedans, mais aux États-Unis, ça aurait beaucoup plus de chances de passer comme oui, c'est non, un abruti mais c'est ouais. de la liberté d'expression, alors qu'en France ce genre de truc bah ça ferait scandale tout de suite et on demanderait justement son retrait. Et je termine très vite, dans l'autre sens, la nudité, là on parle pas d'enfants, hein, mais la nudité tout court aux États-Unis est beaucoup moins acceptée, et en France, elle est beaucoup plus acceptée. C'est-à-dire que si on a, je sais pas, une image de quelqu'un...
Le sein de Janet Jackson, c'est le meilleur exemple.
Par exemple, voilà, c'est un très bon exemple. C'est très compliqué. Alors ensuite, vous allez dire, il faut pour les trucs français, on va demander à des modérateurs français, les trucs américains. Mais bien sûr, il n'y a pas de frontières. Donc, c'est difficile de se dire, quand c'est une image qui est diffusée en France, ben on la va la supprimer pour la France ou pas. Et bien sûr, c'est des trucs qui sont partagés partout, etc., etc. Donc... Si vous mettez, je mets vraiment les gens au défi d'imaginer un système où on va mettre un modérateur en face d'un écran qui va regarder ces trucs et qui va prendre, même si on met tout l'argent du monde, et peut-être qu'il en faut plus, encore une fois, mais qui va prendre les bonnes décisions et qui satisferait tous les gens qui sont mécontents de ces problèmes de modération aujourd'hui. Donc, j'ai pas de réponse, en fait, mais... Je t'ai encore interdit de m'interrompre, Jérôme. Vas-y.
Je sais plus ce que je voulais dire.
On parlait de liberté d'expression.
Oui, ça, je sais. Mais attends, c'était à quel moment que je voulais intervenir
Les gens qui disent que les gens de couleur sont quand même bien plus paresseux que les
blancs.
Oui, non,
je trouve que ton exemple était pas assez, pour expliquer pour les pays anglo-saxons. Tu peux, dans un pays anglo-saxon, si je me trompe pas, tu peux par exemple dire moi, les Noirs, je les déteste et ils devraient tous mourir. Ce que tu peux pas, c'est dire moi les Noirs je les déteste et je veux tous les poignarder. C'est-à-dire tant que tu appelles pas effectivement à un acte comme tu l'as dit, mais ton contre-exemple était trop soft. C'est-à-dire que
oui, non mais t'as raison. J'ai adouci moi-même mon propos.
Voilà, t'as dit les gens de couleur. Non non, c'est ça. Tu peux vraiment avoir un propos genre les Juifs, ils devraient disparaître de la surface de la terre.
C'est ouais, ça c'est un petit peu limite, je crois, mais oui, je comprends ce que tu veux dire.
Aux États-Unis, n'ont pas les mêmes. Alors qu'en France, un propos comme ça est condamné par la loi.
La citation à la haine raciale. Raciale.
Il y a des choses comme arborer un signe, la croix gammée. On sait qu'en France, c'est condamnable. Aux États-Unis, c'est pas condamnable. En Angleterre, non plus. Tu peux très bien te déguiser Halloween. On a d'ailleurs vu un des fils. Bon, ça a fait quand même un scandale.
Ça fait scandale, mais légalement. C'est légalement pas un crime, alors
qu'on aurait, bon, tu me diras, on a des fils de président qui ont fait pire en France, mais bon, on aurait le fils du président qui se déguise en officier nazi. Non seulement il y aurait un bad buzz et une mauvaise presse, mais en plus il peut faire de la tôle et de l'amende, quoi, pour ça. Ouais.
Donc oui. Donc effectivement, il y a ces choses à prendre en compte et. Donc on a beaucoup parlé cette dernière demi-heure, mais tout ça c'est pour dire que ce que demandent les journalistes de la BBC et d'autres, hein, on en a partout, qui et de manière complètement appropriée aujourd'hui parce que ce genre de problèmes sont récurrents et on en comprend l'importance aujourd'hui, mais ce que demandent les gens de la BBC et les parlementaires anglais et des parlementaires français de temps en temps aussi, me paraît vraiment, si on prend les choses de manière dépassionnée et purement technique, me paraît difficile à mettre en place. Je ne conçois pas aujourd'hui de système qui puisse résoudre de manière satisfaisante tous ces problèmes. Je ne sais pas si je me trompe.
En plus de ça, les réponses qu'apportent les politiques et les parlementaires à ça, je trouve qu'il y a des dérives un peu populistes, dans le sens où, pour moi, une des définitions les plus strictes du populisme dangereux, c'est de donner à tout prix des réponses simples à des problèmes complexes.
Ouais, alors dans ce cas, tous les hommes politiques sont populistes. Hein.
Mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie d'un homme politique, la tentation du populisme, elle est énorme. Parce que tu sais que tout le monde va être d'accord avec toi si tu donnes une solution simple à un problème complexe. Parce que c'est tellement plus populaire de dire, écoutez, alors c'est très simple, pour que les choses se passent mieux, on va interdire ça et comme ça, il n'y aura plus de problème. Enfin voilà, c'est la manière qu'ils ont. Et c'est là où je vois des dérives. Et dans un monde qui est inquiet, dans lequel on vit aujourd'hui, où tout est interconnecté avec ces réseaux sociaux et tout ça, il y a des tentations très grandes, effectivement, chez des hommes politiques, de sortir de leur devoir de réserve et de modération, qui est de dire, attendez les gens, c'est peut-être pas si simple que ça, faut qu'on réfléchisse, faut qu'on fasse des lois, qu'on en débatte, et de partir dans des dérives populistes, genre... Oh, puis de tout mettre, en plus de tout mettre dans le même sac, hein, ces méchants réseaux sociaux américains, il y a qu'à ériger des lois et d'être un peu plus strict avec eux. Ils se font plein de pognon en plus, donc si en plus ils mettent des photos d'enfants nus, ça va plus du tout. Faut les interdire, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
C'est-à-dire que les réponses. Les réponses simples, effectivement, qu'ils donnent, c'est il y a qu'à supprimer les photos, les contenus controversés. Voilà,
et
c'est quand même pas dur.
En plus. Oui, c'est la censure d'État qui propose un peu.
Ouais, là j'irai pas jusque là. Moi je dirais il faut, enfin, parce que dans leur esprit, je pense qu'effectivement ils se disent il y a des trucs pas bien. Et il suffit de supprimer les trucs pas bien. Mais enfin, où est le problème? Tu vois, c'est vraiment la manière dont ils voient les choses, je pense. Et il y a de ça, et puis aussi toujours cette tendance qu'on a et qui est humaine, je crois, à ne voir que le côté d'une équation qui nous arrange. C'est-à-dire que quand on se dit, il faut, on pourrait par exemple signaler les contenus inappropriés. Une fois que ces contenus atteindraient un certain seuil, ces signalements atteindraient un certain seuil, et on le supprime. Et on voit pas le côté abus de ce système. Et Dieu sait que ça existe ce genre d'abus sur Internet. Pareil pour la question des différences culturelles. On va dire, c'est pas compliqué. Vous supprimez les trucs les instances d'incitation à la haine raciale. Voilà, c'est pas dur pourtant.
Et on voit pas. Moi, c'est ce que j'avais entendu sur les problèmes de culture. une réponse logique, c'est de se dire, bah, on prend les cultures qui ont le plus d'interdits, on se cale, en fait, sur les plus gros interdits, mais on repart sur l'étoile, sur la croix gammée. La croix gammée, elle est autorisée aux États-Unis, interdite en France, donc on peut se dire, bah, Facebook, vous l'interdisez, comme ça pose pas de problème. Mais, dans les pays d'Asie, c'est un signe bouddhiste, la croix gammée, donc on peut pas l'interdire.
Dans l'autre sens. Elle est dans l'autre sens. Mais oui, non, mais moi, ouais. c'est pas ça qui me poserait problème.
Elle est pas dans l'autre sens, hein, Patrick, hein, au Vietnam. Enfin, il y a des endroits où c'est dans le même sens. Hein.
Bah, si tu me le dis, je te crois volontiers. Mais moi, c'est même au-delà de ça que ça me poserait problème. C'est que, cette question de moralité sur la nudité, par exemple, on serait pas du tout prêt à accepter que la règle en vigueur soit la plus dure et du coup, on va parler des États-Unis parce que c'est l'exemple qui vient tout de suite, mais on peut aller au-delà. On peut parler, si on veut prendre les règles les plus dures, on peut aller dans des pays comme, je sais pas, l'Arabie Saoudite, la Chine, tu vois, ça pose des questions de, tu parlais de censure. Là, on peut y venir. Donc non, c'est pas la bonne solution non plus.
C'est sûr que si on mettait toutes les femmes avec une burqa, il y aurait plus de problème, on n'aurait plus de problème de nudité.
Mais au-delà de ces questions de sujets explosifs comme la burqa ou ce genre de choses, les choses dont on peut parler en Chine, par exemple, c'est pas les mêmes que celles dont on peut parler ici. Alors on va dire, ah bon, ok, mais dans ce cas-là, non, on compte pas la Chine. D'accord, on compte pas la Chine. Est-ce qu'on compte l'Iran? Est-ce qu'on compte la Syrie? Est-ce qu'on compte la Russie? Est-ce qu'on compte... Tu vois, c'est pas possible.
Ah bah,
et,
oui.
Et donc, mais même... je pense qu'il y a... Tu sais, un exemple qui m'a frappé, qui est peut-être un poil capillotracté, mais que je veux évoquer quand même. On parlait... J'avais tweeté ou retweeté un article assez intéressant sur une dame qui était allemande, si je ne m'abuse, qui passait son temps à effacer des graffitis nazis. C'était une dame d'un certain âge qui était horrifiée par ce qu'elle voyait sur les murs et elle avait décidé de faire quelque chose et elle s'était dit je vais aller les effacer parce que merde, je peux pas voir ça sur mes murs quoi. Et c'était un très bel article sur une dame qui est absolument admirable et quelqu'un m'a répondu en substance, je me souviens plus des termes exacts, mais en substance, il me disait tu vois, cette dame, si on mettait en place le revenu universel, elle pourrait se consacrer à ça et ça serait un bénéfice pour la société. Et ça m'a paru très intéressant parce que au-delà du fait que le revenu universel, à mon sens, moi personnellement, ça me paraît être quelque chose d'intrigant dont je pense qu'on pourrait le tester. Et qui pourrait être quelque chose vraiment d'intéressant, quoi. Je sais pas si il faudrait le mettre en place tout de suite comme ça, mais en tout cas, à tester, c'est vraiment une idée intéressante. Donc, je suis pas en train de le condamner, l'idée du revenu universel, bien au contraire. Par contre, ce que cette personne qui m'a répondu n'a pas pris en compte, c'est que oui, cette dame pourrait s'y consacrer, mais tous les gens qui écrivent, qui font des graffitis nazis pourraient eux aussi s'y consacrer. Tu vois, donc c'est un petit peu... Et c'est vraiment dans ce sens-là. On a tendance à trouver des solutions simples à des problèmes compliqués et à ne voir que la partie solution et pas les nouveaux problèmes que ça crée. Et cette tendance est très présente chez... Les médias et les hommes politiques, je crois, qui essayent de parler de ces sujets.
Naturelle. Après,
elle est naturelle, t'as raison.
Mais effectivement, après, tu peux aussi avoir l'excès inverse de penser que des choses négatives. Mais la plupart du temps, effectivement, et on le voit bien avec des problèmes qu'il y a eu sur Internet depuis qu'Internet existe, il y a eu des trucs d'une naïveté. Moi, je me souviens d'une époque, les débuts des forums où tu vois, des notions de troll et tout ça n'existaient pas encore quand on a laissé... on n'a pas du tout pensé aux gens qui ont un esprit pervers, mal tourné, méchant. Et c'est pas la majorité des gens, mais avec Internet, ils ont un pouvoir de nuisance qui est multiplié et qui leur donne une portée énorme. Et ça, c'est un des phénomènes qu'amène Internet. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures qui existent sur Internet qui sont le fait d'un très petit nombre de personnes.
On est d'accord, oui. Enfin bon, donc au final, c'est presque. J'ai pas l'impression que ça soit déprimant parce que on trouve pas de solution et on ne pose que des problèmes. Donc c'est un petit peu ouais, bravo les gars, merci. Mais je crois que
il y a des prises de conscience, c'est bien, ouais. C'est important. Tu vois, et je pense que nous on y contribue aussi. Hein, je pense que de dire aux gens, vous êtes des producteurs de contenu quand vous postez une photo de vos vacances. Voilà, il y a des trucs comme tu dis. Quand tu postes une photo de vacances, tu penses pas aux conséquences que ça peut avoir. Mais si, par exemple, sur ta photo de vacances, il y a quelqu'un en arrière-plan qui est en train de sniffer un rail de coke et que tu ne l'as pas vu et qu'on peut l'identifier... Enfin, je prends des exemples
ouais,
extrêmes.
Déjà, c'est peut-être change de pote, mais oui, effectivement.
Non, mais ça peut peut-être être les gens sur la serviette de plage suivante, quoi. Non, mais ça, non, tu rigoles, mais c'est un truc, on regarde pas les gens en arrière-plan.
Oui, oui, oui,
les photos de vacances, mais peut-être que tu rentres dans la vie privée d'autres personnes. Le mec avec sa maîtresse qui passe derrière toi entre le
coup. Oui, je dirais que c'est plus ta responsabilité, là, du coup.
Non,
je comprends ce que tu veux dire.
C'est juste pour faire comprendre que rien n'est innocent. Et c'est pas parce que vous vous sentez petit, non influenceur, ou que vous avez pas une activité énorme, que vous êtes pas Patrick Béja, que
oula, oui,
tout le monde suit, ou Corben, que ce que vous postez ne peut pas avoir des conséquences d'ailleurs bénéfiques, mais aussi négatives. Donc, faut faire attention.
Je crois qu'effectivement, il faut faire attention, il faut être conscient de ce qu'on fait. Il faut aussi, comme je disais, être le changement qu'on veut voir dans le monde. C'est vraiment important. D'ailleurs, je l'évoque de temps en temps, la communauté qui s'est réunie autour de ces émissions que je produis et qu'on produit tous est vraiment bienveillante, contrairement à ce qui se passe généralement sur Internet. Et je pense que ça a à voir avec cette idée que on essaye tous d'être raisonnables et positifs d'une manière générale. Et puis de l'autre côté de l'équation, il y a donc les sites qui, à mon sens, ont un intérêt commercial à nettoyer tout ça et qui essayent de trouver des systèmes et sur lesquels il faut évidemment mettre une pression saine. Je pense qu'il faut les encourager à mieux faire, à toujours mieux faire, mais il faut pas le faire de manière simpliste. Donc, finalement, je crois même si on n'a pas forcément l'impression, les choses vont dans le bon sens. Je crois. Donc, mais bon, je vous laisserai vous-même être juge.
Je trouve tout ça trop compliqué. Je dis une bonne bombe atomique, une bonne guerre, et puis ça résoudra tous les problèmes.
Oui, tu sais, c'est un petit peu la réaction de certains face au monde politique aujourd'hui. Pas une bombe atomique littérale, mais une bombe atomique figurative. C'est ce qui s'est passé en Angleterre et aux États-Unis. Donc, fais attention à ce que tu souhaites. Hein. Tu pourrais
Mais je donne l'exemple simple. Je sais que les questions complexes, ça fatigue, mais évitons de donner des réponses simples à des problèmes complexes, parce que généralement, ça se termine assez mal. Ouais.
Bon, il y a une chose pour conclure qui est pas mal du côté de Facebook. Ils ont mis en place un système qui s'appelle le Town Hall. Je sais pas s'il y a une traduction en français de Town Hall.
La rencontre
du village, quoi, la rencontre de la ville.
C'est la
dans
place
la mairie,
publique.
Quoi.
C'est ouais. pas la place publique.
C'est ça.
Dyslexie, bonjour.
Attention, oui. Mais effectivement, donc c'est un service où ils vous permettent, en fonction de votre emplacement, d'avoir les identités et les contacts de vos représentants dans le gouvernement, aux États-Unis, que ce soit dans le monde entre guillemets physique, donc téléphone, adresse, tout ça, ou même sur Facebook ou leurs identités numériques. Et bon, c'est une petite pierre à l'édifice qui va permettre aux gens d'être un petit peu plus actifs, un petit peu plus engagés. Politiquement et dans la vie publique, et je pense que c'est une bonne chose. Alors ça va pas changer la face du monde, mais c'est l'un des trucs que Facebook essaie de faire pour aider, quoi. Et je trouve que c'est bon, on parle beaucoup du négatif, voilà un petit point positif.
Souvent un premier frein c'est mais je sais même pas qui contacter.
Complètement, oui.
Et d'ailleurs Town Hall c'est bien mairie, hein, en tout cas dans les propositions de traduction c'est un équivalent
à
mairie.
Oui, mais je veux dire, le town hall, c'est d'autres choses aussi, c'est les town hall meetings, c'est
oui,
une vie communautaire un peu plus, ouais. Bah écoutez, voilà donc pour cette grosse partie sur la modération. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis j'espère qu'on vous aura aidé, à défaut de proposer des solutions entre guillemets simples, bah que ça vous aura aidé à y voir plus clair et à vous rendre compte des réelles difficultés qui se posent à tout le monde dans ces conversations. On va passer à la suite de l'épisode, mais non sans oublier, ne pas oublier, voilà, on va dire ça comme ça, de remercier les patriotes.
C'est dur aujourd'hui.
L'émission, hein. Ouais, c'est compliqué. Qui soutiennent l'émission. Alors aujourd'hui, on remercie encore Gaël Bayot, Kevin Oupa, Nazim Haddad, Maxime Frima, Marie Lemaître et Rominou. Merci à vous tous de soutenir l'émission. Vous savez de quoi il s'agit, hein. C'est le Patreon du Rendez-vous Tech, ce qui vous permet de soutenir financièrement cette entreprise podcastique. Si vous estimez que l'émission est sympa, qu'elle vous apporte des choses, eh ben, on n'a pas de publicité, on n'a pas de sponsor de société. On est 100% indépendant et on est soutenu et financé par les auditeurs qui choisissent de le faire. Si vous faites partie des gens qui se disent ah ouais peut-être un jour je sais pas, sachez que toutes les sommes sont bénéfiques. On peut parfaitement donner $1 par épisode, ça compte vraiment, et ça prend 2 minutes à faire. Bon allez, peut-être 3 ou 4 montres en main, mais vraiment pas plus longtemps, pour créer un compte et devenir patriote. Et puis vous aurez des petits avantages en plus en fonction de votre niveau de soutien. Mais vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et devenir vous aussi un soutien du Rendez-vous Tech et participer à la production de cette émission, avoir la fierté à chaque épisode qui sort de vous dire, eh ben moi, alors je l'avais pas prévu, mais je vais le faire.
Pièce de l'édifice.
C'est ça, je suis le changement que je veux voir dans le monde en soutenant des initiatives qui me paraissent bénéfiques. Donc si vous pensez que le Rendez-vous Tech est une bonne chose dans le monde de la tech, eh ben, je vous encourage à considérer peut-être l'idée de nous soutenir financièrement, même à $1, ça sera 100% apprécié. On continue avec nos news et rumeurs, avec une news qui a été mise là, je pense, par un ancien animateur un animateur qui est passé il y a quelques épisodes. C'est, et que je vais bien sûr vous donner, c'est la sortie du livre de Geoffrey Dorn, qui s'appelle Hacker Citizen, qui est un livre assez sympa, qui a été kickstarté il y a quelques temps de ça, qui vous propose plein de petits trucs de hacker, mais de hacker presque de maker, quoi. Il vous propose, par exemple, d'apprendre comment réaliser un bonnet infrarouge qui va vous cacher des caméras. Ou alors un t-shirt qui va vous dissimuler de la reconnaissance faciale sur les caméras de surveillance. Il a des graffitis sonores, etc., etc. Enfin, plein de petits trucs comme ça, de hack, de la vie de tous les jours, militant et
je l'ai pas encore lu, mais j'ai feuilleté. Je crois que c'est Marion qui l'a, mais je l'ai feuilleté, c'est vachement bien. Hein. Puis c'est très bien illustré, enfin avec Geoffrey Dorn, on s'en doutait un peu. C'est un chouette bouquin.
Voilà, donc ça s'appelle Hacker Citizen et c'est disponible. L'annonce de Free, il y a eu un mini buzz la semaine dernière et puis finalement ils ont annoncé en fait que ils allaient inclure dans leur forfait le roaming toute l'année sur toute l'Europe et les États-Unis et je crois un ou deux autres pays. Le roaming pour la data. Donc c'est intéressant pour l'Europe, mais pour l'Europe le roaming va disparaître bientôt. Donc ils font un buzz en anticipant un truc qui va arriver de toute façon. C'est comme toujours bien joué de la part de Free. Par contre, ils ont aussi les États-Unis, ce qui est plutôt cool. Je crois que c'est 5 gigas en roaming par mois, ce qui est
quand même attention, 5 gigas en 3G, pas en 4G par contre. Et du coup, ils se sont fait couper l'herbe sous le pied le lendemain par SFR.
Oui, mais qui n'inclut pas les États-Unis si je ne m'abuse.
Si.
Ah, t'es sûr?
Ah bah écoute, il me semble bien, hein. Moi j'ai fait la news, il me semble bien qu'il y a les États-Unis en 4G justement.
Ah bah écoute voilà, donc une fois de plus ça fait avancer les offres
téléphoniques, les effets bénéfiques de la concurrence pour le consommateur.
Exactement, ça arrive aussi parfois.
Jusqu'à ce que la société se casse la gueule parce qu'elle gagne plus d'argent. Je viens de vous expliquer l'économie moderne en une phrase.
En même temps, je crois que je les plains pas trop non plus hein, les gros opérateurs de téléphonie, je crois que plus ça va. Ils gèrent
ils
malgré
dans les poches, ouais.
C'est ça, malgré les annonces d'apocalypse qu'on avait à l'arrivée de Free, j'ai l'impression qu'ils ont survécu. Hein, donc,
non, c'est clair.
À propos de géants qui survivent, Amazon est en train de lancer son épicerie en ligne en France. Vous savez que c'est déjà le cas aux États-Unis et il y a différents types d'articles d'épicerie, en fait, qui sont désormais disponible chez Amazon. Alors moi, j'ai pas réussi à voir la chose, à accéder à la chose sur mon compte Amazon. J'imagine que c'est peut-être en cours de déploiement. J'ai pas vu l'épicerie.
Qu'est-ce que ça a de différent avec Prime Now?
Bah écoute, tu me poses une colle. Si je ne m'abuse, c'était pas encore entièrement mis en place.
Moi, Prime Now, ça fait plusieurs mois que je l'utilise.
Et tu as tous les articles,
des trucs,
mais genre tes cornflakes, tes
oui, non mais
de la nourriture quoi.
Oui, de la nourriture, de la boisson. Maintenant, ils ont même, mais ça a pas l'air d'être exactement la même chose.
Oui,
mais
je crois que c'est d'autres produits. Hein. Il y a des pâtes, il y a des
produits. Oui, Prime Now, c'est plus, on va dire, de l'épicerie de quartier. C'est des prix d'ailleurs d'épicerie de quartier. Oui, c'est ce que je suis en train de voir. Oui. D'accord. C'est un truc de dépannage, hein, Prime Now. Hein. Si tu fais toutes tes courses sur Prime Now, t'es vite ruiné quand même.
Ouais. Mais alors, ouais. Alors du coup, bah, tu m'intrigues. Prime Now, tu peux acheter quoi? Parce que j'ai peut-être
Des bouteilles de Coca, de l'eau, du pain, des plats surgelés. C'est tout ce que tu vas trouver dans une petite épicerie en bas dans ta rue, quoi.
D'accord. Ah bah peut-être que c'est la même chose. Alors peut-être que je me suis j'ai mal lu l'article.
T'es livré gratuitement dans les 2 heures et ça te coûte un peu si t'es livré dans l'heure.
D'accord. Bah c'est
chose. Mais je pense que c'est différent parce que Prime Now est vraiment positionné comme le truc genre putain j'ai oublié d'acheter des œufs quoi. Il me les faut dans 2 heures, je vais pas ressortir pour aller au Carrouf m'acheter les œufs, tu vois, c'est plus comme ça. Mais après ouais. Ah mais par contre, c'est qu'à Paris, là, j'ai l'impression qu'ils lancent.
Alors il y a 14 villes, hein. Il y a 14 villes, oui.
C'est ça aussi la différence.
Ah bah peut-être que toi tu y avais déjà accès en tant que Parisien
en tant
privilégié.
Que Parisien.
C'est ça, mais là il y a effectivement Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, etc. Donc Il y a vraiment une... Peut-être que c'est l'extension de ce service qui existait déjà, c'est possible.
Ouais, peut-être. Ouais. Mais tu devrais essayer, c'est vraiment bien fait, hein, Prime Now d'Amazon. Ils sont... Enfin, oui, l'appli est bien et les produits, ça dépanne bien quand même.
Bah, à vrai dire, pour ce genre de choses, j'ai l'épicerie de quartier, je sais pas pourquoi ça me dérange moins de descendre, tu vois, si j'ai besoin d'un peu de
jus d'orange. C'est moins cher quand même que l'épicerie de quartier. Mmh.
Même avec la livraison. Faire. Bon, faut être premium quand même.
Ouais, la livraison est gratuite si t'es premium, ouais.
Bon, voilà, Amazon continue son grignotage du commerce de proximité. Bien joué Amazon, bravo.
Ça va encore créer du chômage, tout ça.
Le Galaxy S8 aurait visiblement une reconnaissance faciale avec des autorisations donc par scan de l'iris et bien sûr empreinte digitale, on connaît ça, et la reconnaissance faciale pour Samsung Pay. Donc voilà, d'autres méthodes de reconnaissance, d'identification, on va dire, sur le S8. Il y a plein de petites rumeurs sur le S8 et sur l'iPhone 8 qui continuent à nous tomber sur la tête régulièrement. Donc je ne vais pas toutes vous les mentionner, hein, je vais vous les épargner, mais il y en a un certain nombre.
Ça me déprime un peu de tester des smartphones sur ma chaîne YouTube parce que 6 mois avant, on a tellement décortiqué tous les trucs. J'ai l'impression de me répéter quand je fais un test sur ma chaîne YouTube. C'est terrible.
En fait, tes tests, ça pourrait être, tu sais, 14 secondes. Bon, voilà, il a tout ce qu'on a dit qu'il aurait. Merci.
Voilà. C'est comme ça. Non, ou alors à l'inverse. Alors, voilà ce qu'il n'y a pas eu par rapport à ce qu'on attendait.
Bon, pour le S8, en tout cas, on aura la réponse bientôt. Hein, c'est en avril qu'il sera présenté. Mika sur le Reddit du Rendez-vous Tech nous a envoyé un article selon lequel Microsoft lancerait un nouveau Windows Phone cette année. Alors ça serait pas encore le Surface Phone qui est dont on entend des rumeurs depuis maintenant des mois, peut-être même des années, et qui lui pourrait peut-être lancer des applications Windows classiques quand il serait en mode desktop. Ce sont là encore des rumeurs. Mais donc, ce Windows Phone remis à jour serait simplement un Windows Phone, entre guillemets, classique, qui ne peut que lancer les applications universelles, donc les applications, entre guillemets, mobiles. Mais donc voilà, Microsoft pourrait lancer un nouveau téléphone cette année pour rester dans le phone game, tu vois, ils vont rester dans le game. Ce qui est
la vraie question, c'est est-ce que Cédric Bonnet va l'adopter ou pas? on connaît la malédiction. Les gens de chez Microsoft, ils sont là. Bon, il faut surtout pas que Cédric Bonnet soit au courant. S'il aime notre produit, on est foutu.
Non, mais Cédric, il a pas le temps. Cédric, il est trop occupé à jouer au handball, à perdre du poids, transformer en Apollon des temps modernes, tu vois. Donc,
tout à fait.
AMD a lancé ses 5 processeurs, enfin 4 ou 5, enfin toute sa gamme de processeurs, où il les lance le 11 avril. Et c'est des processeurs, la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'ils sont vraiment intéressants comparés au prix équivalent des processeurs Intel. Et ça faisait très longtemps qu'AMD n'avait pas mis, sorti des processeurs qui pouvaient être en concurrence avec les processeurs Intel. Donc les processeurs Ryzen peuvent être des choses à considérer, à prendre en compte si vous êtes en train de construire un PC ou ce genre de choses. À ceci près qu'ils font moins bien sur les jeux. Donc c'est à voir. Peut-être ce que je dirais, c'est que si vous jouez beaucoup, investiguez bien la chose pour voir si vraiment c'est intéressant pour vous. Mais sinon, pour tout ce qui est bureautique, ce sont vraiment des processeurs qui ont l'air d'être en vraie concurrence avec les processeurs Intel.
En tout cas, c'est bien que la concurrence soit relancée, quoi.
Ouais, il était temps.
Ouais.
Vous vous souvenez peut-être de Do Not Pay. C'était en fait un bot gratuit avec lequel vous pouviez discuter par une interface de discussion, de messagerie, qui vous posait des questions et qui vous permettait de faire les bonnes procédures pour ne pas payer vos contraventions pour si vous étiez mal garé, par exemple. Et c'était un bot qui posait des questions pour savoir, alors, est-ce que vous étiez pressé, pas pressé. Mais il y avait donc toutes les raisons qui font qu'on a le droit de se garer de cette manière, qui étaient mises dans le bot et qui vous posait les bonnes questions pour savoir si vous correspondiez à l'un de ces cas. Alors, c'était amusant, on en a beaucoup parlé à l'époque. C'était un petit peu, on va dire, pas limite, parce que ça reste légal, mais c'était une utilisation intéressante du truc. Et ben là, le développeur de ce bot a créé une version pour aider les gens qui demandent, qui font des procédures d'immigration aux US, au Canada et en Angleterre, à mieux remplir leurs formalités d'immigration et à s'assurer qu'ils font les demandes, toutes les demandes auxquelles ils correspondent. Et c'est vraiment intéressant de voir ce truc qui est parti à la base de l'idée de ne pas légalement, mais sortir d'une contravention, et maintenant qui également légalement permet de faciliter l'immigration dans tous ces pays quand on a souvent à naviguer dans des forêts de formalités administratives auxquelles on comprend pas forcément grand chose. Donc c'est marrant de voir cette transition, quoi. Consumer Reports, qui est un petit peu le 60 millions de consommateurs aux États-Unis, va commencer à estimer la sécurité informatique et les éléments de sauvegarde de la vie privée quand ils vont donner des notes aux produits qu'ils testent. Alors, comme je disais, c'est un petit peu 60 millions de consommateurs aux États-Unis, donc ils font énormément de choses, ils testent énormément de choses, pas que de la technologie, mais aussi de la technologie. Et du coup, ils vont prendre en compte cet aspect sécurité et vie privée dans leurs notes et dans leurs analyses également. Ils sont associés à tout un tas d'organismes qui gèrent ça et qui ont établi une sorte de de white paper, de cahier blanc, je ne sais plus comment ça se dit en français, enfin d'une série de règles pour déterminer ces choses-là. Ils l'ont
un livre blanc.
Merci. donc ils l'ont proposé comme à l'étude et les gens peuvent dire ce qu'ils en pensent pour modifier la chose. Moi, ça me paraît, c'est le genre de truc où c'est on se dit d'une part enfin et d'autre part, mais pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait plus tôt ? C'est tellement évident qu'il faut le prendre en compte dans la manière dont on évalue les produits, tous les produits, que ça soit, je sais pas, des téléphones, des services sur Internet, mais... etc. Et...
On confond souvent la prise de conscience de nous qui sommes technophiles et du grand public. Je pense que les notions de sécurité et de confidentialité, tout ce genre de choses, la prise de conscience grand public, on y est presque, mais enfin ça commence maintenant, quoi. Nous, on est au courant depuis beaucoup plus longtemps, mais
je suis d'accord, mais justement ça aide à cette prise de conscience et surtout ça aide les consommateurs à savoir, tu sais, c'est comme dans un autre domaine complètement, mais c'est comme les notes de consommation électrique des appareils électroménagers. Bah,
ce à quoi je pensais, en fait. La prise de conscience, entre guillemets, écologique, elle est arrivée tardivement, alors que les écologistes étaient au courant depuis beaucoup plus longtemps. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, les associations de consommateurs mettent ce type de mesure quand elle est importante pour le grand public.
Je suis d'accord, mais là justement, ça veut dire que tout le travail qu'on a fait en amont, de la même manière que l'on fait les écologistes pour ces questions d'écologie pendant des décennies, jusqu'à ce qu'on arrive à vraiment une prise de conscience dans ces domaines, et ben là, tout le travail que nous, technophiles et évangélistes de la technologie, avons fait en amont depuis des années, depuis peut-être une dizaine d'années ou un petit peu moins même, bah commence à porter ses fruits. Je crois que c'est important, quoi.
C'est en ça qu'on, malgré tout ce qu'on a dit au début de l'émission et tout ça, c'est bien et c'est rassurant. Il commence à y avoir des prises de conscience de tout le monde sur les dérives, en fait, de ces formidables inventions technologiques que nous avons, mais les dérives possibles, quoi.
Ouais. Be the change you want to be into the world.
Exactement. On n'arrête pas de reboucler, en fait, dans cette émission.
C'est ça. C'est soit le changement.
Il faut voilà, en fait, c'est une mission.
C'est ça, exactement.
Changement, tu es.
soit le changement, c'est mieux, je pense.
Ouais, soit le changement.
6 mois après avoir rejoint l'équipe d'Uber, son président, qui s'appelle Jeff Jones, part d'Uber parce qu'il dit que le problème d'Uber n'est pas dans comment dire, il pense que c'est pas des problèmes structurels, il pense qu'il y a vraiment des problèmes dans le leadership de la société. Et j'en parle parce qu'on avait évoqué Uber assez longuement avec Jeff il y a 2 semaines, et c'est marrant de voir la suite ici, de se rendre compte que vraiment il y a, je pense là encore, des choses qui se passent qui sont une prise de conscience chez Uber. Enfin moi, quand je vois, on suit assez d'assez près d'une part Uber et de l'autre Airbnb, et quand on voit ce qui se passe avec Uber et avec Airbnb, qui sont finalement des sociétés assez similaires dans la manière dont elles ont vraiment jeté un pavé dans la mare d'industries existantes qui étaient
on peut parler de hold-up, hein, d'une certaine façon.
Dans les deux cas, des changements qui ont été amenés par la technologie, qui étaient peut-être inévitables, mais en tout cas qui ont été personnifiés par ces deux sociétés. On a vraiment l'impression de voir d'un côté Airbnb, qui est une société gérée par des adultes et des gens responsables qui ont réussi autant que possible à éviter les écueils administratifs, qui font pas du rentre-dedans. Et de l'autre côté, Uber, qui est géré par des gens un petit peu énervés ou en tout cas très impulsifs. Et on continue à le voir aujourd'hui, les conséquences que ça a sur la société, même si, bah, comme on l'évoquait avec Jeff, le potentiel reste trop important pour que ça mette en danger Uber. Bon, voilà, c'est quand même quelque chose qui a des ramifications. communication dans
Bah, il y a une culture très c'est ce que moi je disais ce matin, il y a une culture très trader chez Uber, on le sent, enfin, tu vois les mecs qu'on voit dans les films Wall Street et ce genre de trucs quoi. C'est
c'est l'impression que ça donne en tout cas, ouais.
Ah, c'est l'impression que ça donne. Et bah t'as entendu comme moi, tu étais le web quand Travis Kalanick, tu sens que c'est dans son caractère quand même. Il est alors ça a des avantages, hein, c'est un fonceur, il a pas eu peur, il y allait à fond, machin, mais je pense qu'il a pris une bonne décision là, c'est de se dire il faut que j'ai quelqu'un pour me contrebalancer. Et que là celui qui part dont j'ai égaré le nom,
Jeff Jones,
n'est pas la personne qu'il faut pour contrebalancer. Voilà, c'est comme ça que je vois le truc.
Il semblerait que, selon certaines sources du Wall Street Journal, Nintendo soit en train de doubler sa prévision, enfin sa production de consoles Switch pour l'année à venir, donc l'année fiscale avril 2017-mars 2018. Alors un doublement de production en passant de 8 millions à 16 millions, qui semble confirmer le bon démarrage de la console de Nintendo, qui est disponible depuis environ 2 semaines et quelques jours, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Alors c'est clairement un indicateur très positif. Ça me donne l'occasion de te poser la question que je pose à peu près tout le monde à qui je parle ces derniers temps. Toi, tu es un joueur historiquement, mais plutôt joueur PC, un petit peu moins console, et puis t'as moins le temps de jouer ces derniers temps, ces dernières années. Du coup, toi, est-ce que cette console hybride, console de maison, de salon, console portable, est-ce qu'elle te parle ou c'est pas vraiment à toi que ça s'adresse?
Moi, non, mais j'ai jamais été très sensible à Nintendo, hein. Je sais, je choque énormément de gens quand je dis ça.
Sors de ce podcast immédiatement.
Mais moi, des plombiers moustachus et des adolescents en col en vert, c'est pas trop
j'allais
mon truc.
J'allais dire, tu les préfères dans la quand ils sonnent à ta porte quand tu parlais de plombiers moustachus, mais après t'as continué avec les adolescents en col en vert et tout de suite on est revenu dans le.
Non, m'amène pas dans tes dérapages, Patrick.
On est tous créateurs de contenu, soit le changement, soit le changement. Attends, je me le répète. Okay.
Si tu... Oui, remarque, déformer les phrases, c'est des choses qui arrivent. Hein. moi, le truc, c'est que je joue pas mal sur mon iPad déjà, donc ça serait redondant. Et puis, mais voilà, après, j'avoue que ça me fait très envie de jouer à Zelda parce qu'il a l'air génial. Mais je sais qu'après que j'ai fini Zelda, ça va terminer dans le placard.
Ouais. D'accord.
Donc, c'est pas bien. Une console qui me tente.
D'accord. Ok.
Et toi, Zelda à fond toujours?
Ah bah oui, je dois être, je sais pas, une cinquantaine, soixantaine d'heures sur Zelda. Pour ceux qui ont écouté l'émission sur les jeux vidéo, le rendez-vous jeu, on a beaucoup détaillé avec mes co-animateurs JK et Sylvain les raisons pour lesquelles ce jeu était important pour le jeu vidéo, donc je vous encourage à aller écouter ça si vous n'avez pas encore eu ces détails-là et si ça vous intéresse. Mais oui, je pense que le jeu en lui-même est un excellent jeu, avec ses défauts, mais excellent jeu. Et puis au-delà, ce qui est intéressant à voir, c'est que Nintendo a réussi la première partie de son pari avec cette console. Alors c'est que la première partie, il se prépare pour la deuxième et puis il y en aura une troisième après, mais la première partie semble se confirmer comme étant clairement réussie. Ce sur quoi moi j'avais des doutes avant le lancement, il y a eu des petits changements entre les annonces et le lancement qui m'ont un petit peu rassuré, mais tout de même. Et puis ce qui m'enthousiasme, parce que moi malgré mes critiques, j'ai toujours été un fervent défenseur de certaines qualités de Nintendo qu'on retrouve rarement ailleurs, et je trouve que c'est une bonne chose pour le jeu vidéo que Nintendo existe et continue à connaître un certain succès, même si c'est pas le même succès que d'autres très grands constructeurs qui touchent un public plus large, mais voilà.
Et ça s'est très bien vendu malgré l'absence de jeux, c'est ça le fond du problème en fait. Sur la Switch, il y a très peu de jeux. Ouais.
Alors, ça s'est bien vendu dans la mesure où ils avaient une production limitée, limitée dans une certaine mesure. Mais ils avaient effectivement un seul jeu qui s'est avéré être très très bon et donc qui justifie pour de nombreux utilisateurs l'achat de la console. Il y a d'autres jeux qui vont arriver ensuite. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, je pense que l'achat aujourd'hui est difficile à justifier comme ça, à moins que ça soit un achat coup de cœur pour ce jeu-là. Par contre, le lancement est suffisamment bon pour donner des perspectives positives qui vont intéresser les développeurs et qui risquent de créer une dynamique de cercle vertueux positive qui, à Noël, avec ce qui est déjà prévu, fera de l'achat de la console quelque chose de beaucoup plus facile à justifier parce qu'il y aura déjà un certain nombre de jeux qui seront arrivés et puis que les perspectives seront également, je pense, plus positives que si la console s'était vendue très moyennement aujourd'hui et du coup qui n'aurait pas eu des perspectives suffisamment intéressantes pour les développeurs tiers. Donc tout ça est une dynamique enthousiasmante, quoi.
D'accord.
Et puis enfin, puisqu'on parle de jeux vidéo, Twitch a annoncé qu'ils allaient bientôt se mettre à vendre des jeux sur leur plateforme. Alors Twitch, pour ceux qui savent pas, c'est une plateforme de streaming en live de jeux vidéo. On regarde des gens qui jouent à des jeux vidéo, hein, je pense que la plupart des gens connaissent. Et bien là, il y aura un petit bouton sous la vidéo, acheter, et ça nous permettra d'acheter le jeu auquel les gens sont en train de jouer. Ça payera les diffuseurs 5% du prix d'achat, Steam se garde, pardon, lapsus révélateur, Twitch se garde 25% et 70% va au créateur du contenu. Alors il faudra ensuite passer par l'application Twitch spécifiquement pour lancer les jeux, mais bon, on n'est plus à une près, hein, il y en a déjà 4 ou 5. Je pense que les gens qui ne sont pas souvent sur Twitch, ça les intrigue pas plus que ça. Ceux par contre, et ils sont nombreux, qui regardent Twitch régulièrement, seront peut-être intéressés par ce type de transaction, parce que finalement, bah, c'est pratique, tout le monde y gagne, y compris le créateur qu'ils veulent soutenir, le créateur de contenu qu'ils veulent soutenir. Bon, c'est une suite logique avec le rachat par Amazon du site, non ?
Après, y a des problèmes de dérapage qui peuvent arriver. J'ai lu des trucs là-dessus. Effectivement, de toute façon, c'est toujours délicat quand tu associes à quelqu'un qui teste ou qui fait des let's play ou un jeu et qui va être rémunéré directement par la vente de ce jeu lui-même. Ça peut poser des questions en termes d'objectivité, de manière de produire le contenu. J'ai envie de rappeler aux gens que
ils vont s'amuser beaucoup plus en jouant qu'avant.
Ils vont vraiment trouver tel jeu absolument génial. Voilà. En même temps, j'ai envie de dire c'est pas des journalistes les gens qui font Twitch, donc il y a pas. Enfin voilà, ils ont pas à être objectifs.
Ouais, quand même, si il y a un petit peu de, il y a
C'est à vous aussi en tant que. Là, il faut remettre les trucs en place. C'est à nous en tant que public aussi de pas tomber dans le panneau d'un mec qui fait des choses là au moins c'est pas dissimulé. Moi c'est ce que j'ai eu, parce que j'ai eu beaucoup de débats sur ce sujet
par rapport à des
youtubeurs qui ont fait des promos de jeux vidéo. Là il y a, en fait, j'ai eu des débats sur le fait que moi je trouve que les liens d'affiliation, quand c'est clairement expliqué, c'est sain. Et là c'est clair, il y a un lien d'affiliation et il est sain. La personne va faire du contenu pour t'expliquer à quel point ce jeu est bien ou pas bien
en se faisant payer par derrière.
Elle fait le boulot d'un vendeur. On n'a jamais reproché à un vendeur de se faire payer par la FNAC parce qu'il vous avait conseillé d'acheter un produit. Je sais qu'on n'est pas là pour être des vendeurs, mais je trouve que la rémunération de par affiliation est plus saine, en tout cas, que des rémunérations dissimulées dans le jeu vidéo qu'il y a sur d'autres plateformes.
Oui, non, je crois que déjà, même sur les autres plateformes, ça commence à s'améliorer et les règles sont en train d'être établies. Je crois que tout le monde est dans les différentes plateformes sont dans cette situation. Mais t'as raison, sur Twitch spécifiquement, au moins là, ça sera clair. Là où ça peut être un petit peu moins clair, c'est effectivement quand il y a des transactions qui sont pas déclarées. On en a beaucoup parlé, donc on va pas en reparler, mais tel développeur te paye pour que tu joues un jeu sans dire que t'as été payé. Oui, là, je crois qu'on est clairement dans un truc où, il y a un défaut moral évident. Mais là, sur cette page où tu as un bouton acheter le truc quand la personne y joue, bon bah tout est clair. Après, c'est à chacun, comme tu le disais, de pas être complètement aveugle quant à cette la nature de ce truc-là, et puis à décider à qui il fait confiance,
si,
à qui
si
il fait
Patrick confiance. Béja
on a tous les outils, quoi.
Ouais, si Patrick Béja sur Twitch vous parle encore de la Nintendo dans 5 ans et de Zelda, vous pourrez dire il y a peut-être eu
un truc.
Il y a un truc quand même. Hein.
Bon, et enfin, dernière petite news, au moment où le campus, le nouveau campus en forme de vaisseau spatial de Apple est en train de finir sa construction, dans les mois à venir, là, il va commencer à ouvrir, on en avait parlé, eh bien, figurez-vous que Google a reçu l'autorisation de construire son propre campus, pas très très loin, toujours dans la même zone hein, de la Silicon Valley ou à côté de son campus Dome, qui est aussi un truc futuriste incroyable. Donc on va avoir un petit peu la bataille des campus futuristes entre Google et Apple. Il manque plus que Facebook qui eux aussi qu'ils fassent un campus incroyable
et French Spin aussi qui monte son kiosque son petit kiosque avenue des Champs-Élysées. Je t'imagine avec quatre petite planche et écoutez mes émissions. Et tu sais, il y a un panneau derrière, centre de formation, tu sais, avec des trucs hyper sérieux, labo de recherche.
Ouais, très bien, très bien. Écoute, on fera un nouveau palier du Patreon. Ça pourra nous permettre de fabriquer, de lancer les demandes d'autorisation du campus French Spin sur les Champs-Élysées.
Le campus French Spin, très en bien. Carton.
Bon, bah écoutez, sur ces bonnes considérations, on va conclure cet épisode. Avant ça, j'aimerais tout de même vous rappeler la sortie d'un épisode assez spécial du Rendez-vous Tech la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours. On a eu un épisode entre les deux épisodes classiques, qui était un épisode spécial sur Shenzhen, qui est donc la ville usine dont on entend beaucoup parler en Chine, où sont fabriqués une immense partie de tous nos téléphones mobiles et puis notre électronique en général. J'ai eu le plaisir d'avoir une conversation assez longue avec deux expatriés français qui vivent là-bas, qui nous ont parlé de la manière dont se passait la vie là-bas, du rapport à la tech, au business, des habitudes, des choses surprenantes qu'ils ont découvert là-bas. Et je pense que c'est un regard particulier, un angle particulier sur la tech qui est vraiment intéressant et dont je pense qu'il pourra vous apporter quelque chose en plus de cette actualité qu'on traite toutes les deux semaines depuis si longtemps. Donc si vous ne l'avez pas vu passer, si vous l'avez raté, je vous encourage à aller le télécharger. C'est donc un épisode, comment je l'ai appelé, plonger dans Shenzhen. Ouais. C'est ça. Et donc c'était un épisode. Alors comme c'était un épisode en plus pour les Patreons, je l'ai mis à disposition donc en gratuit. Il compte pas comme un épisode en plus payé. Certains d'entre vous ont eu la gentillesse de me dire que c'était intéressant et que ils auraient bien voulu payer pour l'épisode. Moi, ça me paraissait un petit peu compliqué de le faire payer. Mais c'est vrai que il est tout à fait possible de limiter le nombre d'épisodes auxquels on va contribuer pour le Patreon à un nombre d'épisodes qu'on veut par mois. Donc certains d'entre vous limitent à 2 épisodes par mois. Si c'est le cas, si vous voulez limiter, je vous encourage à le faire. Je vais pas refaire un spécial tout de suite, hein, mais je me dis peut-être qu'un jour je referai un épisode spécial et peut-être que là je le compterai dans les épisodes payants. Je suis pas sûr. Dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires de cet épisode ou de celui sur Shenzhen. Si tout le monde me dit non, c'est des épisodes différents, ça m'apporte rien, je veux pas qu'ils soient comptés. Bon je le ferai peut-être pas. Hein, on échange toujours nos avis sur la chose et je suis bien sûr très à l'écoute de la communauté, mais je pense qu'il pourrait y avoir à terme, encore une fois, ça va pas être tout le temps, ça va être peut-être à un moment plus tard dans quelques mois, d'autres aspects, alors ça sera pas forcément Shenzhen, ça sera je sais pas, mais d'autres aspects de la tech qui pourraient être intéressants aussi, et peut-être qu'à ce moment on verra comment je les publie. Mais dans tous les cas, l'important c'est qu'il est disponible. Si vous l'avez raté, vous pouvez retourner l'écouter. Je pense qu'il y avait alors c'est très différent, c'est à mi-chemin entre un rendez-vous tech et cette émission en anglais que je fais qui s'appelle The Phileas Club, où je parle avec des gens de différents pays, beaucoup de politique d'ailleurs. pour donner des perspectives différentes à tout le monde. Mais c'est un épisode un petit peu différent, mais je pense qu'il a pas mal plu. Donc voilà, allez y jeter un coup d'oreille.
En complément, moi je vous conseille, il y a un documentaire de Wired sur Shenzhen qui est dispo sur YouTube. Vous cherchez Shenzhen par Wired et qui s'appelle The Silicon Valley of Hardware. Et le documentaire est super intéressant. Aussi.
Et ben justement, on y fait référence dans l'épisode, et c'était l'une de nos bases de réflexion sur la question de la propriété intellectuelle, la nature de la propriété intellectuelle en Chine et à Shenzhen spécifiquement, et la manière dont ça transforme un petit peu la fabrication en open source forcée pour tout. Et ouais, c'était une manière de voir les choses assez différentes qui était tout à fait fascinante. Donc voilà, beaucoup de choses dont on peut parler, mais on va pas refaire l'épisode. Allez l'écouter, il est disponible, bien sûr. C'est l'épisode 207, donc celui juste avant cet épisode-ci. Bah voilà pour notre longue discussion et nos longues discussions. Jérôme, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver si les auditeurs en veulent plus de toi ?
Plus de Jérôme, toujours plus. Eh bien, vous pouvez me retrouver sur notre chaîne YouTube, puisqu'on est plusieurs à travailler dessus, Nowtech TV. Donc, vous cherchez Nowtech ou Nowtech TV sur YouTube. Et vous pouvez, et maintenant, on est sur YouTube tous les matins en live. Alors, en ce moment, je sais pas quand cette émission va sortir, mais en ce moment, on est plutôt à 12h30, parce que Marion est à New York, moi, je suis à Paris, et on s'est mis aux horaires de Marion, donc on est à l'heure américaine. Mais normalement, c'est de 8 à 9h, et en ce moment c'est de 12h30 à 1h30. Et grande nouveauté pour ceux qui écoutent en différé notre live tous les matins, vous le retrouverez maintenant dans une version audio qui est sur iTunes, donc en concurrence directe avec le Rendez-vous Tech. Sauf que nous on sort tous les jours.
Une heure par jour. Une heure de Jérôme par jour, c'est un délice.
Ou de Marion,
c'est vrai.
Ouais. Donc, non, mais alors c'est pas du tout le même type d'émission que nous, c'est une revue de presse, voilà, dans le plus strict sens du terme. On parle des articles des autres et des news comme ça à travers une revue de presse qui est commentée en direct par les gens qui nous suivent en live.
Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Jérôme. Et effectivement, on est très heureux de voir plus de contenu audio disponible pour tout le monde. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez aller me suivre sur ces deux plateformes, car oui, je suis également disponible sur Facebook. Vous pouvez aller commenter cet épisode et écouter d'autres émissions sur frenchspin.fr, et je vous encourage d'ailleurs à le faire. Vous pouvez aussi laisser des commentaires et des étoiles sur iTunes ou d'autres plateformes de podcast, comme par exemple Macalga, qui depuis le Luxembourg nous prévient, nous dit se mettre en condition avec 5 étoiles. Merci à toi Macalga, il dit à savourer. Pour écouter Patrick, je me mets en condition, pas dans les transports ou avec un QC35, c'est un type d'écouteur. Quel plaisir, les contenus ainsi que les interlocuteurs sont très intéressants. J'attends avec impatience chaque podcast de Patrick. Merci, et si vous aimez, soutenez-le sur Tipeee. Alors il dit Tipeee, il veut dire Patreon bien sûr. Merci à Macalga.
C'est moi qu'il faut soutenir sur ça. Tipeee.
Régine Cardin également, depuis la France, me donne 5 étoiles en disant « Mais la high-tech à la portée de tous. Très bon podcast que j'écoute depuis 2 ans, c'est amusant, très informatif. Tous les sujets sont abordés, même politique, et c'est très bien. Beaucoup de plaisir à l'écouter. Merci à toi, Régine, et merci de mettre en avant cet aspect de l'émission, c'est-à-dire que ça met la high-tech à la portée de tous, parce que pour moi, c'est vraiment un des éléments hyper importants de l'émission, et à vrai dire, de presque toutes les émissions que je fais, c'est de faire une sorte de vulgarisation qui va intéresser les débutants, je l'espère en tout cas, et quand même garder des éléments intéressants, enfin informer les débutants et intéresser les gens qui s'y connaissent. Et je crois que grâce à vos feedbacks et les intervenants et le travail qu'on fait sur l'émission, je crois qu'on réussit cette alchimie un petit peu compliquée. Et pour moi, c'est presque, je le dis en rigolant à moitié, une mission publique. C'est-à-dire que on le sait, on le dit depuis longtemps, la tech et ses ramifications partout elle est importante à comprendre. Et c'est un petit peu le but de ce qu'on essaye de faire ici. Donc, encore une fois, merci à Régine pour ses 5 étoiles et pour ce commentaire. Si vous pensez que vous avez quelque chose à dire, vous pouvez aller sur iTunes vous aussi, ou alors, comme on l'a dit et répété, sur patreon.com/rdvtech. Tous les liens sont dans les notes de l'émission et vous le savez, chaque dollar compte et ça se fait en 2-3 minutes. Donc n'hésitez pas à le faire pour soutenir l'émission si vous pensez qu'elle est importante pour vous ou pour les autres. On vous remercie un million de fois de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le suivant. Ciao à tous.
Salut tout le monde.